Bonjour à tous. Alors, j'écoutais attentivement le témoignage d'Hervé qui parlait de la nécessité de laisser l'esprit nous conduire. Et puis j'écoutais Sandra et ben, je vais me rasseoir. Donc, parce que beaucoup de choses que je voulais partager avec vous sont en fait centrées, gardez à l'esprit et en mémoire ces deux témoignages, comment l'esprit peut nous conduire. Alors, j'ai envie de dire l'esprit de Dieu, mais aussi la manière dont on appréhende, on aborde les choses. Voilà, je voudrais juste lire en préambule de ce partage de l'Écriture un verset que j'ai lu durant la semaine, puisque je lis depuis environ 2 semaines et demie, 3 semaines, toutes les épîtres de Paul, et j'étais dans Romains aussi cette semaine. Et je lisais ce verset, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Alors on peut se poser la question, pourquoi lire la parole de Dieu? Et là, l'apôtre Paul évoque cette réalité, c'est qu'au moment où il écrit cette lettre aux Romains, il est dans une situation compliquée. Le corps du Nouveau Testament n'est pas encore fixé. Il y a bien quelques évangiles qui circulent d'église en église, mais le Nouveau Testament n'est pas constitué. Donc, lorsqu'il dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, il fait surtout référence à ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Et puis je sais bien que nous autres chrétiens, qu'est-ce qu'on aime bien lire les évangiles avec l'histoire de Jésus. On est rentré là dans la révélation du salut, de l'amour du Père. Et pourtant, il y a dans l'Ancien Testament des textes qui sont comme des perles qui peuvent aujourd'hui nous donner une instruction pour que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures donnent de la patience et de la consolation, ou par la patience et la consolation, nous avons pour objectif, ou Dieu a pour objectif, de nous donner de l'espérance. Alors, est-ce que nous avons de la patience? Je ne sais pas. Hein, j'écoutais, voilà, on attend des choses, mais on est impatient de les avoir, hein, ce que disait aussi notre sœur. Et puis, est-ce que nous avons aussi de la consolation en lisant l'Écriture? C'est une bonne question. Est-ce que certains d'entre nous ont besoin de consolation? Non, personne. Très bien. Très bien, très bien. Moi, j'ai besoin de consolation. On bavarde, on papote avec ma femme, même quand on regarde des reportages, des films, des choses comme ça. Et puis je lui disais à un moment donné combien sa présence dans ma vie avait été source de consolation. Elle m'a donné la possibilité de vivre et de guérir des choses par ce qu'elle était. Je suppose que j'ai été aussi ce reflet-là pour elle. Mais Dieu, par sa parole, par la fréquentation de sa parole, nous donne aussi de pouvoir trouver la consolation dans les domaines qui nous concernent. Et nous ne sommes pas concernés par tous les mêmes domaines. Mais Dieu, par sa parole, nous donne la consolation. Alors, j'aimerais partager un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dont parle Paul, ce qui a été écrit d'avance, et puis tout simplement essayer de voir en quoi, par la patience à appréhender la parole, mais aussi par ce désir d'aller à la rencontre de la parole, je peux recevoir ce matin une consolation pour moi, pour toi. Et j'aimerais lire un premier texte qui est dans le livre des Juges, au chapitre 1, au verset 12. Il parle d'une jeune femme qui s'appelle Axa, donc certainement une jeune femme pleine d'assurance. Ouais, je sais, c'était facile, mais je ne pouvais pas la faire. Mais ce n'est pas n'importe quelle jeune femme. Cette jeune femme, c'est la fille de Caleb. On va voir qui est Caleb, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et si j'avais un titre à donner pour ce temps de partage de l'Écriture, je dirais... Être renouvelé par les sources d'en haut et par les sources d'en bas, ou alors tel père, telle fille. Dans le livre des Juges, il est écrit ceci. Caleb dit, Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiryat Sefer et la prendra. » Donc c'est une ville. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, la prit, donc cette ville, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. À son arrivée, elle l'incita, son mari, à demander un champ à son père. Elle sauta de son âne et Caleb lui dit, « Qu'est-ce que tu as ?» Elle lui répondit, « Accorde-moi une faveur, car tu m'as donné une terre du sud, donc exposée au soleil. Donne-moi aussi des réservoirs d'eau. » Alors Caleb lui donna les réservoirs d'en haut et les réservoirs d'en bas. Vous me direz, ouais, c'est une histoire de partage, d'agriculture, d'intérêt sur son héritage. Ce texte-là, quand l'apôtre Paul dit que ce qui a été écrit auparavant l'a été pour notre instruction, afin que par notre patience et par notre lecture de ces Écritures, nous puissions recevoir la consolation. On va se dire, mais qu'est-ce que j'ai ? Alors d'abord, est-ce qu'il faut que j'aille voir mon père pour lui demander un champ ? Donc, à la sortie du culte, coup de téléphone, « Papa, je voudrais un champ, mais tu me donnes aussi des rivières ou... ?» Non, ce n'est pas ça. Il y a aussi un accueil de la parole de Dieu qui est spirituel. Ce texte-là, vous allez le retrouver dans le livre de Josué, je dirais quasiment, je dirais mot pour mot. On donna à Caleb, fils de Yéphouné, c'est au chapitre 15, voilà, et on retrouve à partir du verset 16, Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiryat Sefer, Othniel, le fils de Kenaz. » Exactement le même texte, deux fois le même texte. Vous savez, moi j'ai pour habitude de dire, quand on me répète deux fois la même chose, c'est que ça doit être important. C'est une attitude que j'ai constamment avec ma femme. Quand elle me dit une chose, je dis, je peux faire semblant de ne pas l'avoir entendue. Mais si elle me dit deux fois, je me dis, oula il faut peut-être que j'entende ce qu'elle est en train de me dire. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Quand le Seigneur écrit deux fois le même texte, on se dit, tiens, chez Josué, chez le livre des juges, à quelques chapitres d'intervalle, le même texte. Or, il est ici question d'autre chose que simplement une histoire d'héritage, de champ, de source, mais plutôt d'attitude spirituelle quant à son rapport avec soi-même, avec Dieu, et puis à la manière dont nous vivons et nous nous emparons des promesses de Dieu. Nous avons dans le livre à la fois de Josué et des juges ce récit de Aksa, qui est la fille de Caleb, et qui demande à son père, il est même dit dans l'autre version qu'elle n'est pas descendue de son âne, elle a crié depuis l'âne. C'est-à-dire qu'elle était sur son âne, elle voit son père, elle dit « Papa, je veux te demander quelque chose !»« Ah oui, qu'est-ce que tu veux ?» Et donc, c'est une femme qui, j'ai envie de dire, illustre à merveille ce verset de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 13, qui dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est-à-dire, quelque part, on a ce que l'on demande. On entendait cela aussi dans les propos de Michel tout à l'heure, mais aussi dans les témoignages à la fois de Sandra et d'Hervé. Si nous avons des besoins, si nous souhaitons, ça ne suffit pas de dire « j'ai confiance en Dieu ». Encore faut-il demander. Et Aksa est une femme qui sait ce qu'elle veut et elle le demande. Il y a une chanson de Serge Lama que j'aime beaucoup. C'est un chanteur qui m'a accompagné dans ma vie par certaines chansons. Je dis bien par certaines, il y en a d'autres qui sont un petit peu olé olé. Mais il y a certaines chansons de Serge Lama que j'aime beaucoup. Et une de celles-là, que j'écoutais encore dernièrement, disait « J'ai rien demandé, je n'ai rien eu. J'ai rien demandé dans ma vie. C'est bien comme attitude, mais je n'ai rien eu. » Et en fait, l'attitude d'Aksa est une attitude où elle dit « Voilà quels sont mes besoins et je te le demande, toi qui es mon père, accorde-moi ce dont j'ai besoin. » On verra que ce qu'elle a reçu de son père, c'est des terres du sud. C'est en hébreu, c'est Negev. Vous avez tous entendu parler du désert du Negev. Eh bien, c'est une terre assez aride. Et ça a été pourtant l'héritage qu'a demandé Caleb, on verra tout à l'heure. Et elle dit, bah ouais, c'est bien d'avoir des terres. Tu m'as donné un mari qui a fait un bon combat, qui a conquis une ville, etc. Mais je me retrouve avec des champs et du terrain qui n'est pas véritablement productif parce qu'il n'y a pas. Je vais te donner les réservoirs d'en haut et les réservoirs d'en bas. Et je vous prierai de vous rappeler des deux témoignages parce qu'on est exactement sur cette question-là. Comment les réservoirs d'en haut, les sources d'en haut, peuvent être un signe, je dirais même une bénédiction voulue par Dieu pour nous. Comment le Saint-Esprit, source d'en haut, est là pour nous conduire à être bénis et à recevoir les bénédictions de Dieu. Caleb, papa d'Aksa, est un homme assez particulier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, rapidement, je vais vous dire, quand Moïse arrive face à la terre promise, avec le peuple en sortant d'Égypte, ce peuple qui avait été esclave pendant des générations et des générations arrive devant la terre promise où Dieu dit bah maintenant mes promesses vont s'accomplir, franchissez le Jourdain, rentrez, emparez-vous de cette terre promise où vous serez mon peuple choisi pour être témoin de qui je suis auprès de toutes les nations. C'est cela la mission d'Israël. Ils arrivent devant le Jourdain et là, un petit peu frileux, Moïse leur reprochera, et Dieu reprochera à Israël ceci, parce qu'il leur dira, Dieu, vous avez vu des miracles étonnants. J'ai ouvert la mer devant vous pour vous permettre d'entrer et d'être sauvés des Égyptiens. Elle s'est refermée sur l'armée égyptienne. Auparavant, il y a eu des plaies qui se sont succédées pour que Pharaon accepte de vous libérer. Et vous avez vu ma main agir avec puissance. J'ai envie de dire que le peuple d'Israël n'est pas très différent de nous. Nous avons bien souvent vu la main de Dieu agir avec puissance dans notre vie. Et pourtant, arrivé devant la terre promise, alors ce n'est pas une terre promise, je dirais, concrète, mais j'ai envie de dire c'est la terre que représente notre vie. Nous sommes avec cette vie-là qui a été sauvée, rachetée, et bien souvent, nous continuons de douter sur la volonté et la capacité de Dieu d'agir dans nos vies. Pourtant, j'ai été sauvé, l'œuvre de la croix, elle est accomplie, je sais que Christ s'est donné pour moi, et pourtant, je suis encore dans le doute, et j'hésite à croire qu'il va pouvoir me faire remporter des victoires sur la maladie, sur mes craintes, sur mes peurs, sur mes violences qui ont diminué mes capacités à croire en moi. Eh bien, Dieu nous dit de la même manière qu'il le disait à Israël, « N'as-tu pas vu mon bras agir avec puissance. » Quand ils arrivent devant la terre promise, le peuple est frileux. Alors Moïse utilise un stratagème, il va dire, je sais que cette terre est promise et magnifique, elle porte du fruit de manière étonnante, le pays où coule le lait et le miel, c'est la promesse de Dieu, c'est cela. Ta vie, ma vie, mon existence, c'est une vie où Dieu dit, il y a en toi un terrain où peut couler le lait et le miel, où il peut y avoir quelque chose de riche et d'abondant qui se développe en toi. J'y crois pas, Seigneur. Je n'y crois pas. Pas avec ce que je suis, pas avec ce que j'ai vécu, pas avec mes incompétences, mes incapacités. Je te dis que ce pays qui est devant toi, en toi, est un pays où peut couler le lait et le miel. Alors, Moïse va faire quelque chose, il va envoyer 12 espions, c'est-à-dire un représentant par tribu d'Israël. Et ils vont rentrer dans le pays, et là, ces 12 espions ont fait le tour. À un moment donné, ils arrivent dans une vallée qui s'appelle la vallée d'Eshkol, et ils coupent une grappe de raisin, une. Et ils se mettent à deux pour la porter, jusqu'au peuple, avec d'autres produits, mais une grappe de raisin portée à deux. Cette grappe de raisin, par souvenir, le peuple d'Israël, lorsqu'ils construiront le temple, ils en feront une gravure qui sera fixée sur les portes du temple, ou sur des portes, notamment du palais du temple d'Hérode. Et il y aura cette gravure avec deux hommes portant une grappe de la vallée d'Eshkol. C'était vraiment une terre où coulait le lait et le miel. Et j'ai envie de dire ce que nous dit Christ en s'adressant à nous et en accomplissant l'œuvre du salut à Golgotha, il nous dit la même chose. il y a en toi une terre qui peut porter du fruit à profusion. Mais je ne le vois pas, Seigneur. C'est impossible. Et par la foi, nous pouvons voir les fruits que peuvent porter nos vies si nous laissons les sources d'en haut et les sources d'en bas arroser notre vie. Si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, si nous le laissons travailler nos âmes, travailler nos cœurs, alors nous pouvons assister à un véritable miracle dans notre être intérieur. Et rien de ce que nous avions vu, hein, Michel parlait tout à l'heure des pierres qui encombraient notre vie, de ce qui était et rendait notre être intérieur tellement dans l'incapacité de porter du fruit, eh bien Dieu nous dit, maintenant, je veux que tu portes du fruit et que tu portes du fruit en abondance. Caleb faisait partie des 12 espions. Quand ils arrivent auprès de Moïse, eh bien, ils disent au peuple et à Moïse, il y en a 10 espions qui disent, pas de problème. C'est vraiment tel que Dieu nous l'a dit et l'a dit à Moïse. C'est un terrain magnifique. Il y a juste un problème. Il y a des géants. On n'y arrivera pas. C'est impossible. C'est impossible. Nous ne pouvons pas, dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 31, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu des géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. 10 espions qui reviennent en disant, c'est vraiment le pays parfait. Mais ça va être trop dur. Ça va être trop difficile. Vous savez, dans notre vie personnelle, il en va de même. Christ accomplit son salut, nous sauve de l'esclavage, nous présente devant la terre promise. On pourrait presque dire que le Jourdain est l'image du baptême qui nous fait rentrer dans la vie nouvelle. Sauf que quand les espions ou quand notre esprit réalise ce qu'il y a en nous, on se dit c'est trop difficile. Ça va être trop dur d'être libéré réellement de ce qu'il y a en moi. C'est trop difficile de faire face. Ces problèmes, c'est comme des géants. Nous ne pourrons pas y arriver. Et nous verrons que lorsqu'Aksa demande à son père d'avoir des sources d'en haut et d'en bas, elle demande deux choses, c'est qu'à la fois il y ait de l'eau qui vienne d'en haut, et nous ne pouvons pas lire ce texte sans penser à l'œuvre du Saint-Esprit dont tu parlais, Hervé, tout à l'heure. C'est-à-dire que face à des difficultés, si nous ne laissons pas l'œuvre du Saint-Esprit descendre d'en haut, remplir notre vie et changer notre manière de voir, alors il n'y a pas non plus les sources d'en bas. Alors les sources d'en bas, on peut dire que c'est l'action du Saint-Esprit qui descend et l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Mais moi, j'aime à penser aussi que ces eaux d'en bas, c'est notre esprit. C'est notre esprit qui dit « c'est pas possible que j'ai fait que 3 fautes au code ». Je trouve merveilleux le témoignage de Sandra qui dit « je suis même allé voir l'inspecteur, ou en tout cas la personne qui contrôlait mon examen, pour dire « vous vous êtes trompé ». C'est pas possible que j'ai fait que 3 fautes. J'en ai fait au moins 10, voire 13. Tellement mon esprit est convaincu que je ne peux pas. Même si l'Esprit de Dieu est intervenu, même s'il m'a soutenu, et il n'a pas fait les réponses à ma place, j'ai travaillé pour avoir ce code. Mais je ne peux pas croire que je sois capable. C'est un beau témoignage, ça, parce que bien souvent, notre esprit contredit ou n'adhère pas à l'Esprit de Dieu. Notre esprit nous dit, non, tu es comme ça, ça ne changera pas. Notre esprit nous dit, ce que tu as vécu dans le passé demeurera pour toi un handicap qui ne bougera pas, c'est inaltérable. Ça ne changera pas. J'ai scotché en face de moi, au-dessus de mon ordinateur, une petite phrase que j'ai lue dans un livre d'études et qui cite Héraclite d'Éphèse. Et Héraclite d'Éphèse dit « Rien n'est inaltérable, rien n'est inaltérable sauf le changement. Ou rien n'est durable sauf le changement. Rien ne se répète sauf le changement. Le changement. Et l'Esprit de Dieu en nous rend possible le changement. Je suis convaincu, je crois pertinemment que j'ai fait 13 fautes parce que je crois que je ne suis pas capable de réussir, d'avoir. Je crois que ce travail parmi la jeunesse, voilà, jusqu'à ce que tout à coup, les sources d'en bas soient quelque part remplies par les sources d'en haut, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui me dit « c'est possible, c'est possible ». Face au pays à conquérir, la terre promise que Dieu nous invite à conquérir, ce sont nos vies. C'est notre appel. C'est notre existence avec lui, c'est notre croissance, c'est notre transformation. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je veux rentrer dans cette terre promise? Lorsque Dieu a parlé au peuple d'Israël face à son refus, il a dit dans le Nombre 14-24 à Israël, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Je vous le dis, c'est mon témoignage, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais tout ce qui m'a fait avancer dans ma vie depuis mes 16 ans et demi où j'ai rencontré le Seigneur, moi qui ne croyais plus en rien, tout ce qui m'a fait avancer, c'est quand mon esprit s'est soumis à l'Esprit de Dieu et a décidé de croire l'Esprit de Dieu. De croire l'Esprit de Dieu. Alors, j'ai envie de dire, quel esprit nous anime? Quel esprit nous anime? Est-ce que c'est notre esprit qui ne croit pas? Qui dit, comme le peuple d'Israël, ça sera trop dur, trop difficile, il y a des géants. C'est trop gros pour moi. N'entrons pas, ne dépassons pas le Jourdain. Ouais. Vous savez quel a été le résultat de cette croyance du peuple d'Israël dans ses limites et dans la non-croyance dans la puissance de Dieu? Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Et il y a tellement de vies d'enfants de Dieu qui tournent pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Dans le désert, parce que leur esprit ne croit pas l'Esprit de Dieu. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Alors on dirait, oui, mais alors c'est le Saint-Esprit qui a aidé Caleb. Et moi, le Saint-Esprit m'a rien dit. Non, je pense qu'il a été animé d'un autre esprit, c'est-à-dire que son esprit personnel, qui décide et qui veut, a décidé à un moment donné de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Avec ses valeurs, le Saint-Esprit dit « Je sais qui je suis, moi, Dieu, je sais ce que Dieu est capable. » Alors si tu l'acceptes, vous savez cette formule, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Oui, mais alors si ça dépend de Dieu, moi, il ne m'a pas donné. Oui, mais c'est à toi d'ouvrir les vannes. C'est à toi d'ouvrir les vannes. Je lisais la description des fontaines de Versailles. C'est étonnant, ces bassins d'eau, vous savez. J'aime beaucoup la fontaine de Poséidon, même si c'est un faux dieu. Hein, mais où vous avez des chars, vous avez le dieu dans une fontaine à Versailles, et vous avez un bassin. Et puis, le bassin, il peut être sans jet d'eau. Mais quand on ouvre les vannes, l'eau jaillit et ça se donne un spectacle magnifique. Ça demande à aller chercher l'eau à des dizaines et des dizaines de kilomètres en amont, avec des canalisations, une pente, etc. Et simplement cela, à l'époque du Roi Soleil, il n'y avait pas encore de pompe, mais il y a tout un jeu de vannes, on ouvre les vannes et ça inonde. Et tout le parc de Versailles est animé par des jeux d'eau de cette manière-là. Il suffit d'ouvrir une vanne. Il suffit que tu ouvres la porte à l'Esprit-Saint. Ce matin, maintenant, j'écoutais quelqu'un qui disait « Aujourd'hui, c'est cadeau. Maintenant, c'est cadeau. » C'est pour ça qu'on appelle ça un présent. Le présent est un cadeau. Et Dieu, dans notre temps présent, nous donne la capacité d'ouvrir la porte et de recevoir. Est-ce que tu veux recevoir l'Esprit Saint ? Caleb, une fois que le peuple a été envoyé pendant 40 ans dans le désert, donc il en avait 40 ans quand il est rentré dans la terre promise, résultat des courses, lui et Josué, qui est le deuxième espion à avoir encouragé le peuple à entrer dans la terre promise, ils sont dans le pack. Quand Dieu dit, puisque c'est comme ça, tous ceux qui sont venus qui n'ont pas accepté mes promesses, qui n'ont pas cru en ce que je pouvais faire, je les envoie dans le désert, petit stage de 40 ans. Et une fois que tous ces hommes qui étaient en âge d'entrer et de combattre, seront morts dans le désert, je prendrai soin d'eux. Ils sont toujours sauvés. Ça vous dit, vous, d'être sauvés dans le désert pendant 40 ans ? Non. Et pourtant. Je crois que Michel, comme moi-même, en ayant servi le Seigneur tout au long de ces décennies, je pourrais vous citer le nom d'hommes et de femmes qui a été appelé par Dieu et qui ont tourné ensuite dans le désert pendant toute leur vie, parfois jusqu'à leur mort, parce qu'ils ont refusé d'entrer dans leur terre promise. Je peux vous dire, quand nous étions au collège biblique, il y avait des garçons et des filles que je regardais, mais avec tellement d'étonnement en me disant, ce sont tellement des modèles. Ils montrent tellement de choses dans leur désir de vivre avec Dieu. Et je pourrais vous citer dans ceux-là qui étaient pour moi des modèles, des hommes et des femmes qui ont disparu des radars spirituels parce qu'ils ne sont pas rentrés pleinement dans les promesses de Dieu. Parce que l'Esprit Saint qui descend d'en haut, ils ne l'ont pas reçu. Alors, ils n'ont pas perdu leur salut pour autant, mais je peux vous dire que il y en a certains qui ont été dans des déserts pendant des années. Il y en a un dont je me souviens, il y a 3-4 ans, un samedi matin, je crois, je regardais une émission, j'aime beaucoup les émissions sur la nature, la vie des villages et les initiatives, et tout à coup j'ai vu un garçon à l'écran qui était présenté dans un village comme un spécialiste de Georges Brassens. Et on le mettait en valeur pour sa connaissance de Georges Brassens. Il était au collège biblique avec moi, avec Michel. Il était connu comme un grand spécialiste de Georges Brassens. Quelle est la place que l'Esprit-Saint a reçue pour qu'il soit reconnu sur ce champ-là et non pas sur le champ de sa foi et des victoires qu'il a remportées. Lorsque Caleb, vous savez ce que veut dire Caleb au fait, le nom de Caleb ? Non ? Ça veut dire jeune lion ou jeune ours en hébreu. C'est-à-dire c'est un jeune qui promet mais qui est plein de force et de fougue. En fait, Caleb était de cette nature-là, quelqu'un qui en voulait. Et je crois que le lion de David, le Messie, donne à ceux qui deviennent ses disciples le fait de devenir des jeunes lions qui veulent saisir la vie, qui sont pleins de fougue. Quand Caleb 40 ans de désert, se retrouve à nouveau devant la terre promise. 40 ans après, il va voir Josué et lui dit « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. » C'est-à-dire quand Dieu m'avait dit, ben lui, il est mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. « Donne-moi donc cette montagne, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, donc ces fameux géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. » Josué 14, 12. Voilà. 40 ans après, il sort du désert. Alors en fait, il a pas, c'est pas 40 ans après qu'il dit cela. C'est 40 ans dans le désert et 5 ans pendant lesquels Israël va rentrer dans la terre promise et se battre. 5 années. Donc en fait, il avait 40 ans quand il est parti dans le désert. Il est revenu devant le Jourdain 40 ans après. Il s'est battu pendant 5 ans et à 85 ans. Alors pour les plus âgés d'entre nous qui disent « je suis un peu vieux, je suis un peu vieille », Michel, il y a encore jusqu'à 85 ans des promesses à saisir. Marie-Vonne, jeune lion, et je le crois sincèrement, dans la prière, dans l'intercession, dans ce que Dieu t'a donné, être avec ses sources d'en haut et ses sources d'en bas. Caleb, le jeune lion, eh bien, il revient à 85 ans et dit « Donne-moi cette montagne. » Et Josué bénit Caleb et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphouné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que sais-tu de l'héritage qui va être le tien parce que tu laissera les sources d'en haut couler sur ta vie, rafraîchir ta vie, apporter la guérison et faire de toi un héritier de Christ. Je suis trop vieille, je suis malade, je suis fatigué, je suis ceci, je suis cela. Est-ce que tu veux laisser l'Esprit Saint te montrer ce qu'il croit de toi ? Est-ce que tu peux croire de lui ? Caleb se saisit de ce pays. Et il ne choisit pas la facilité, en fait. Hein. Vous savez, Caleb, ce qui est remarquable chez lui, c'est qu'il est animé véritablement d'un autre esprit. Il est rentré dans la terre promise, il a combattu avec les autres tribus pour chasser les ennemis et vraiment s'approprier le territoire, un peu comme nous le faisons dans ce monde, par l'action de l'Église au milieu du monde. On est en train de se battre. Et puis, il a certainement dû voir certaines contrées qui étaient beaucoup plus faciles et beaucoup plus agréables. 85 balais, il dit, « Donne-moi donc cette montagne où il y a des géants. » Ah, nous, on aurait dit, tu sais, un peu comme le neveu d'Abraham, Lot, où Abraham lui dit, « Choisis, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. » Et puis Lot regarde, il dit, « Bah, là, ces plaines-là sont fertiles, il y a des rivières, il y a des fleuves, etc. » Il y a quoi ? Oui, il y a des villes, comment ? Comment ils s'appellent ? Bah, je ne sais pas. Sodome et Gomorre. Oui, mais ça m'intéresse. Il fait le choix de la facilité. On sait ce qu'il en est advenu. On peut, nous aussi, être dans la facilité, dire « Voilà ce que je veux, le plus facile dans ma vie avec le Seigneur. » Il était animé d'un autre esprit, Caleb. Il dit « Ce n'est pas la facilité qui m'importe. Parce que je sais que si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. » Il peut y avoir des géants dans ta vie, il peut y avoir des choses compliquées, difficiles, qui sont sous ton regard, que tu as traversées et qui existent encore, et tu peux les voir comme des géants. Et Caleb te dit, mais oui, mais si l'Éternel est avec toi, ces géants disparaîtront. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'il était animé d'un autre esprit en tant qu'homme, mais aussi en laissant l'Esprit de Dieu lui montrer ce que Dieu était capable de faire. C'est le témoignage que tu as donné, Hervé. Si l'Esprit agit, si on le laisse agir en nous, alors ces victoires sont possibles. Caleb, au contraire des autres, manifeste la douceur d'esprit et l'humilité en comptant sur Dieu et non sur ses propres forces. Peut-être que l'Éternel sera avec moi. C'est ce qui est écrit dans certaines traductions, peut-être. Moi, j'aime pas beaucoup ce peut-être. Dans une autre traduction, il y a plutôt « que l'Éternel soit seulement avec moi », parce qu'il se dit « moi, je l'ai vu ». Y compris dans les temps de désert, 40 ans de désert. Et peut-être que tu as vécu 40 ans de désert dans ta vie. Mais est-ce que dans ces déserts, tu n'as pas vu aussi Dieu, malgré tout fidèle, à côté de toi? Est-ce que tes yeux n'ont pas vu la fidélité de Dieu répandre sa manne matin après matin, te permettre de tenir debout, de vivre, pour que te présentant maintenant, parce que son esprit t'a permis de sortir du désert, te tenir devant la terre promise et dire « Aujourd'hui, que l'Éternel soit avec moi et je chasserai tous les géants qui peuvent être encore présents dans ma terre promise. » Othniel et Aksa, quand la fille de Caleb se présente, elle a les mêmes caractéristiques que son père. Tel père, telle fille. C'est vrai aussi spirituellement, je pense. Je dis souvent que l'homme qui m'a le plus apporté dans ma vie, c'est certainement Maurice Truc. Il a plein de défauts. Je le lui dis. Mais il m'a montré comment laisser le Saint-Esprit me conduire dans l'appel que je pressentais en moi. Est-ce que vous êtes de cette même race? Est-ce que je le suis pour vous? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous êtes auprès des vôtres, auprès de vos conjoints, de vos parents, de vos enfants, de cette race de Caleb qui laisse la trace dans la vie d'Aksa et qui lui permet d'être aussi capable de demander dans ce lieu aride. J'ai le Négev, tu m'as donné le Négev, c'est un beau jardin, mais il n'y a pas d'eau, donne-moi les sources d'en haut. C'est-à-dire, permets que le Saint-Esprit descende sur moi et rafraîchisse ma vie, rafraîchisse mon pays, ma contrée que je porte du fruit. Donne-moi les sources d'en bas, c'est-à-dire l'esprit que tu as, toi, et qui t'anime, Jésus-Christ. Que ton esprit vienne transformer mon esprit. Que les sources d'en bas, celles qui sont en moi, puissent me permettre de vivre différemment. Lorsque Ézéchiel, au chapitre 34, verset 24, parle au nom du Seigneur, le Seigneur dit « Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu et David, mon serviteur, sera prince au milieu d'eux. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé. » Et le Seigneur, c'est Yahvé dans ce texte-là. « Je conclurai pour eux une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux féroces. » Il y en a, Seigneur, dans ma vie, des animaux féroces. Mais Dieu dit, je les ferai disparaître. Ils habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des broussailles. Je ferai d'eux et des environs de ma colline une bénédiction. Dieu veut faire de moi une bénédiction par sa présence. J'enverrai la pluie en son temps. Ce seront des pluies de bénédiction. Dieu veut faire couler sur ta vie. Sur ta vie. Une pluie de bénédiction, ses sources d'en haut. Tu seras, dit le prophète Ésaïe 58:11, tu seras comme un jardin abreuvé, comme un point d'eau dont l'eau ne déçoit pas. Ça renvoie aux évangiles. Christ qui dit, je suis la source de vie. Venez boire. Rappelez le récit au puits avec la Samaritaine, celui qui boira de cette eau-là n'aura plus jamais soif. Est-ce que tu veux être abreuvé de ces sources d'en haut pour devenir, comme le dit Ésaïe, un jardin abreuvé comme un point d'eau dont l'eau ne déçoit pas? C'est-à-dire devenir ou avoir une source en soi. Donne-moi les sources d'en bas. C'est-à-dire que je devienne source pour mon fils, mes petits-enfants, pour mes collègues de travail. Est-ce que je peux être une source? Non, ils sont trop durs. Oh, puis ils valent pas le coup. Mais est-ce que je peux être une source d'eau qui abreuve la soif de ce monde qui est autour de moi? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37. Ce n'est pas, je dirais, une prédication, une parole, je dirais, purement spirituelle. C'est très concret. Est-ce que tu veux devenir une source d'eau? Est-ce que tu veux que des fleuves d'eau vive? Alors demande à l'Esprit-Saint. Et là aussi, j'ai envie de dire, demande comme Axa a demandé à son père. Demande-lui, dis, dans le secret de ta chambre, ou maintenant, là où tu es, dis, Seigneur, que ton esprit coule dans ma vie, afin que je puisse être abreuvé, rafraîchi dans mon âme. Tu connais, Seigneur, le trouble qui est en moi. Fais couler ta vie, et que je puisse aussi devenir une source d'eau vive. Dans le livre des Proverbes, il est même parlé de cela au chapitre 5, verset 15. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. » Parfois, certains se sentent tellement secs à l'intérieur. Dans le texte de Josué, Axa demande des réservoirs, des citernes. Vous savez la différence entre un puits et une citerne? Le puits, je veux dire, c'est de l'eau courante qui est là et qui peut se tarir. Mais des citernes, c'est impressionnant. En fonction de la grandeur des citernes, eh bien, ça se remplit avec la pluie, avec la rosée, etc. Et puis ça reste. Est-ce que nous n'avons pas besoin aussi de construire des réservoirs dans nos vies? C'est-à-dire dans la proximité de Dieu, dans la lecture de sa parole, être en capacité d'avoir une réserve en nous. Bois l'eau de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits, mais de tes réservoirs. Est-ce que j'ai de la réserve en moi, du fait de ma lecture de la parole, du fait de ma proximité avec lui? Tu peux demander maintenant à être véritablement détenteur de cette eau vive, d'être rafraîchi. Pour aider les autres, il y en a certains parmi nous qui sont des spécialistes de l'aide aux autres. Hein ? Mais nous ne pouvons déverser sur les autres que ce qui sort de notre propre puits, de notre propre réservoir, de ce que Dieu a rempli. Est-ce que tu veux demander à l'Esprit de venir remplir ta vie ? Est-ce que tu veux qu'il y ait à la fois des sources d'en haut qui viennent remplir ton existence ? Est-ce que tu veux que ton esprit soit purifié, transformé par cette eau qui descend en haut et qui te permette d'avoir des réserves en toi, de transformer ton esprit? Je vais vous demander d'incliner vos têtes et que ceux qui veulent déjà maintenant dire « Seigneur, cette parole, je veux vraiment la vivre », bien que vous vous leviez à votre place, simplement, en toute simplicité, de toute manière, qu'il y ait des personnes qui se lèvent ou pas, on priera ensemble. Donc si vous voulez dire, voilà, cette parole-là, les sources d'en haut, je veux comme Axa les avoir pour inonder mes champs, mes déserts, ce qui est sec en moi et qui peut revenir à la vie. Le Negev est devenu un jardin pour Israël par ces sources qui ont été amenées dans ces déserts. Seigneur, fais la même chose pour moi. Je veux que ton esprit coule sur ma vie, coule sur moi. Je veux être rafraîchi, renouvelé. Je veux aussi que les sources d'en bas, mon esprit en moi, soient transformées, Seigneur. Je veux qu'il soit véritablement renouvelé, que ce que je crois par mon esprit soit ce que ton esprit croit. Transforme ma vie maintenant, Seigneur. Donne-moi ces sources d'en haut. Donne-moi de vivre cette résurrection de vie, ce désert qui refleurit. Maintenant, Seigneur, je te le demande comme Axa le faisait auprès de son père. Tu es mon père, mon Dieu. Alors je te le demande. Fais couler ton esprit dans ma vie. Maintenant, j'ouvre les vannes de mon cœur, j'ouvre la porte de mon existence afin que ton esprit coule en moi. Je le veux, Seigneur. Je veux ces sources-là pour moi maintenant. Réponds à ma prière. Amen. Vous pouvez reprendre place. Que le Seigneur nous donne de vivre. C'est une expérience, ce n'est pas simplement des mots. C'est une expérience à vivre avec Dieu. Je suis certain que Caleb, par son assurance, a changé la vie de sa fille et que sa fille, sur le modèle du père, a aussi changé sa vie et celle de ses enfants. Que le changement rentre dans notre vie par la puissance de l'Esprit. Amen.